C'est précieux. Je peux voir votre Bible, s'il vous plaît. Votre Bible, s'il vous plaît. Ça ne pèse pas. Et vous savez avec moi que ça ne pèse pas. Je peux voir votre Bible, s'il vous plaît. Et nous allons déclarer tous ensemble. Ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter aujourd'hui encore, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée, je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une semence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des espérances surnaturelles. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ, j'ai une grande bénédiction pour les plus grands. Amen. Recevez au nom de Jésus. Notre texte habituel, je parle aujourd'hui encore de l'ordre de Melchisédek. La dernière fois, toujours dans la série de l'ordre de Melchisédek, nous avons parlé de la puissance de l'autel, nous avons parlé de la gloire de l'adoption, nous avons parlé de la miséricorde qui triomphe du jugement et enfin, nous avons parlé un sacrificateur sur son trône et nous continuons la série. Notre texte de base, Genèse 14, 17, nous pouvons le prendre dans Hébreu ou dans Genèse, Hébreu 7 ou dans Genèse, mais aujourd'hui je préfère le prendre dans Genèse chapitre 14. Je commence au verset 17. Il est dit ce qui suit. Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des quais de la mer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement c'est qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eskol et Mamré, et ils prendront leur part. » Qui me donne un amen à ces beaux textes? Je vais ajouter un deuxième texte, psaume 82. C'est Asaph qui écrit ce psaume. Nous allons le lire tout entier. Psaume 82. Je commence au premier verset jusqu'au dernier. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec l'iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Pause. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et n'oubliez pas, Très-Haut, c'est El Elyon, celui dont Melchisédek apporte à Abraham la révélation. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Qui me donne un amen à ce texte? Non, verset 8, le dernier. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Qui me donne enfin un amen? Et dans la vallée de Chavé, où Abraham, lorsqu'il revint de la victoire face au roi qui est de la mer et à tous ses alliés, alors que ses puissants rois ont conquis de l'est à l'ouest, ils ont tout rasé sur leur passage. Mais lorsqu'Abraham apprend que son neveu Lot est amené captif, il poursuit Kedar Omer et tous ses alliés. Là où tous les rois avaient échoué, Dieu donne à Abraham la victoire. Et sur le chemin retour, Abraham arrive à la vallée de Chavé. Et là, le roi de Sodome vient à sa rencontre. Mais avant qu'il ne propose sa transaction, Melchisédek s'interposa entre les deux. Ce matin, je parle de la vallée de Chavé. La vallée de Chavé, votre Bible dit qu'il est aussi appelé la vallée du roi. C'était un lieu où le roi venait se mesurer afin de savoir qui est puissant. Mais cette forme de compétition ne s'arrêtait pas sur le plan militaire ou physique simplement, mais c'était aussi sur le plan spirituel. Des rois pouvaient venir dans la vallée de Chavé afin de se comparer qui d'entre eux est pesé le plus sur le plan spirituel. Et le mot Chavé, en hébreu, veut dire équilibre ou balance. Et lorsque vous le remplacez, le contexte devient plus clair. Donc c'est la vallée de l'équilibre ou de la balance. Je vais vous expliquer cela comme je fais au premier culte. Qui va m'aider, mon interprète n'est pas là. Tu peux m'aider, jeune homme? Merci. J'espère que tout le monde voit ici, les gens qui ne voient pas dehors. Je pense que les écrans de télévision vont le permettre de voir. Comme tu étais là, c'est bon? Allez, toi va de l'autre côté. Regardez. Laissez. Tu laisses. Essaie de laisser. Plus ou moins. Tu peux arrêter ça, s'il te plaît. Ça me dérange. Ça devient plus intéressant. Ça fait les listes de l'hélico. Ok, tu as arrêté le ventre de la terre? C'est bon, c'est le vent du ventre de la terre qui faisait ces mouvements. Voilà. J'étais élevé par mes grands-parents et mon grand-père était un magasinier. Il était magasiné de portugais et je ne sais pas, je ne me rappelle plus, c'était en Mato frère ou en son fils, ce qui est devenu en son frère. À l'époque, c'était en son et fils parce que c'était donc, ou Rodriguez, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, mais il était magasinier là. Et j'ai gardé ça dans mes souvenirs parce que j'étais tout le temps dans son magasin, je voyais puis comment ça se faisait. Il y avait des modèles de balance à l'époque qui permettaient de peser les poissons salés, haricots, riz, et tout ce que vous voulez. Et ces balances étaient faites de deux, comment on appelle ça, de deux plateaux. Voilà, de deux plateaux, de part et d'autre. On prenait un morceau de fer qui était comme une unité de mesure. Ça pouvait être un kilo, cinq kilos. On les mettait de ce côté ici, de la balance. Et on commençait à mettre des poissons de l'autre côté jusqu'à ce que ça montait, et dès que ça, c'est l'équilibre est établi, c'est que ces poissons ont quel poids? 5 kilos. On pouvait aussi mettre 1 kilo ou 10 kilos, le principe reste le même. J'en ai vu un autre modèle, toujours dans les magasins de mon grand-père, là c'était un tige levé comme ça, avec deux crochets de part et d'autre, et de ce côté on met juste un poids, toujours un bar de fer, mais qu'on soulève un poids, et puis de l'autre côté, les gens qui amenaient leurs sacs de noix de palme ou de tout ce que vous voulez là qui venait vendre au portugais, on prend ton sac, on met de l'autre côté et on ajoute, tu ajoutes jusqu'à ce qu'il y ait équilibre. Et lorsqu'il y a équilibre, l'unité de mesure de ce côté veut dire que exactement le poids de ce côté est le même que l'unité de mesure. C'est ça donc la balance. Aujourd'hui tout a changé, c'est devenu moderne, tu montes simplement et puis. Mais le principe de la balance ou de l'équilibre est celui-là. Et c'est dans cette vallée-là que le roi de Sodome va à la rencontre d'Abraham. Il est venu pour peser Abraham et savoir combien Abraham pesait. Et en signe de reconnaissance, dans mon 1, tu ne peux pas faire les deux. Je te fais signe. Et en signe de... Il y a une enveloppe ici, tu vois, ça va changer l'équilibre, jeune homme. Et en signe de reconnaissance, le roi de Sodome voulait peser Abraham pour lui ajouter quelque chose à son poids. Vous voyez, le roi de Perse, lorsque Dieu est venu le visiter, Dieu l'a pesé. Et Dieu a trouvé qu'il était léger. Une main est sortie et s'écrit teke teke mene mene, veut dire que tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Dieu ne l'a pas pesé par rapport à lui-même, c'est-à-dire Dieu n'était pas de ce côté de la balance, il a mis le roi de l'autre côté. Non, Dieu l'a pesé par rapport aux mesures qu'il a données au roi des nations. Vous ne connaissez pas Dieu, vous dirigez les nations, mais il y a des mesures qu'on ne dépasse pas. Si la coupe déborde, Dieu est obligé d'intervenir. C'est comme ça qu'il dit à Abraham, l'iniquité des habitants de Canaan ne sont pas encore arrivés au comble, l'eau ça débordera. N'importe quelle nation de la terre, n'importe quel groupe d'hommes, il y a des frontières qu'on ne dépasse pas. Lorsqu'un roi, lorsque des individus, un groupe d'hommes dépassent des frontières interdites, du haut-dessus, Dieu descend pour mettre fin à leur règne et à leur système. Et lui a été pesé, Dieu dit, parce que tu ne pèses pas sous la balance, tu n'as pas d'équilibre en tant que roi des nations. Je vais t'envoyer dans la forêt et là tu mangeras avec des bêtes féroces, des ongles pousseront, les cheveux pousseront. Et là tu sauras qu'il y a un Dieu au ciel. Lorsque tu reviendras, tu auras mis de l'ordre et un peu de morale dans ton système de gestion de la société. Et lorsque le roi de Sodome arrive, c'est dans le but de peser Abraham, savoir combien il pèse spirituellement. Et voir s'il peut lui donner un peu de sorcellerie de Sodome, enfin de lui monter de niveau. C'est pour lui un signe de reconnaissance. Mais justement, lorsque lui arrive, avant la transaction, Melchisedec s'interpose parce que c'est la vallée de tous les anges. Il y a des liens et des saisons dans la vie qui déterminent les restes de votre destinée. Et je suis convaincu que nous sommes dans cette saison. Et tu es au bon endroit. Tu es dans l'église où ta destinée et celle de ta postérité après toi sera taillée à partir de ce qui se fait ici. Une légende commencera avec ton nom. Je dis une légende commencera. Tu n'entends pas ce que le prophète dit. Ton nom entrera dans l'histoire. Ta famille commencera à être connue dans cette nation. J'ai dit quelque chose commence parce que nous sommes arrivés à la vallée des chavés. Dites au voisin, vallée des chavés. Faites comme ça. Dites, balance. Alors regardez. Lorsque Melchisedec arrive, tu prends à peu près. Si ce sont les mêmes centimètres, ça marchera. Là, tu vois. Vas-y, tu vas déposer. Laisse. Attendez. Ton panier doit pousser un tout petit peu. Gloire à Dieu. Vous voyez? Ça, c'est la balance. Je sais qu'elle n'est pas vraiment parfaite. Mais c'est à peu près ça, la balance. Maintenant, ça c'était le but du roi de Sodome. Lui est là, de ce côté de la balance, et qu'il mette Abraham là pour savoir combien Abraham pèse. Et qu'il voit comment investir Abraham d'un pouvoir pour le mettre en équilibre. C'était ça la vallée de Chavé. On commence avec un micro. Si tu ne le poses pas bien, ça ne reste. Si tu le poses calmement, on ajoute du poids de part et d'autre. C'est bon. Ça fait l'équilibre. Et lorsque Melchisedec arrive, il fait exactement ce que le roi de Sodome voulait faire à Abraham. Mais Melchisedec ne lui laisse pas le temps de le faire. Lui-même amène Abraham sous la balance. Et il trouve effectivement qu'Abraham ne pesait pas. Donc c'était quelque chose. Et viens, jeune homme, viens m'aider. Viens. Non, ne touche pas encore, voilà. Laisse là-bas. Tu vois? Donc, Abraham était au-dessus. Laisse. Abraham était au-dessus comme ça parce qu'il ne pesait pas. Et le roi de Sodome dit, et Melchisedec dit, il faut mettre Abraham, lui ajouter certaines choses. Il ajoute, au fur et à mesure que tu ajoutes, l'équilibre s'établit. Oh mon Dieu, écoutez ceci. Mais comment est-ce que Melchisedec l'a fait? Melchisedec l'a fait en bénissant Abraham. Dites avec moi, en bénissant Abraham. Or, la bénédiction veut dire du bien sur quelqu'un. Et lorsque tu dis ce bien-là, je ne parle pas de vieux pieds. Je ne parle pas de bons souhaits, mais je parle d'une bouche autorisée et qualifiée. Lorsqu'il dit du bien de toi, il te transmet un pouvoir ou disons des capacités spirituelles qui fait que tu pèses un peu plus que tu pesais avant. Ça commence à venir. La bénédiction veut dire, je me tiens là, viens ma fille. Tu ne veux pas voir la bénédiction? Tiens-toi là. Voilà. Elle est là, moi je suis ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de balance. Et il est difficile que je marche avec elle, que nous fassions route ensemble parce que nous ne sommes pas sur une même plateforme. Et ça, c'est la difficulté qu'il y a dans le couple, dans les relations humaines. Tu vois, un homme qui est très spirituel, il est là et sa femme est là en bas, lui est perché en haut. Et ils ne savent pas marcher ensemble. Ça peut être le niveau d'études, ça peut être le niveau social. Regardez généralement, un homme voit les 10 ans, les 15 ans à venir. Et il dit, nos enfants doivent aller dans de bonnes universités, ils doivent. Nous devons arrêter d'être locataires, nous devons, et toutes ces choses-là. Ça lui permet d'épargner un peu plus pour voir le futur. Or, généralement, sur ce plan-là, les dames sont bas et ne voient qu'aujourd'hui. Les enfants doivent bien s'habiller, ils doivent avoir des bons sacs pour l'école, parce qu'ils vont à l'écodime, quand même, ce sont nos enfants, et tout doit être dépensé aujourd'hui. Et ça crée des tiraillements, parce qu'il n'y a pas équilibré, il n'y a pas de balance. C'est pourquoi il est important de partager la vision. Je disais ce matin, ancien firmé ou ancien matou aura beaucoup de difficultés avec les intercesseurs s'il ne sait pas de les amener à son niveau. Moi, j'aurai des difficultés avec mes assistants et mes anciens si je ne sais pas de les amener à mon niveau. Et le problème de l'église est celui-là. C'est quoi le problème de l'église? C'est que lorsque j'estime que cette moquette n'est plus en bon état, nous devons la changer. Et que je demande à mes diacres ou à mes anciens ou à une équipe de m'évaluer qu'est-ce que ça nous coûte. Et on me dit, bon, il nous faut 12 000 dollars pour changer ça. Et si le diacre n'a pas le même niveau de vision que moi, le diacre estime que 12 000 dollars c'est beaucoup d'argent, d'abord c'est un hangar, et puis cette moquette-là, mais elle est encore bien, et puis d'abord tout ça sont des dépenses, et puis c'est là où les frictions commencent. C'est là où les gens ont des difficultés de marche. Si moi je dis, ok, nous allons mettre des carreaux, un peu de carrelage ici, nous mettons le plafond, nous voyons comment embellir, mettre tout ça, quelqu'un va dire, ça ne nous appartient pas, et puis en plus, et puis pour combien de temps, c'est juste par hasard, mais daddy, tout cela, mais. Juste à cause de la perspective que nous avons de la vie. Et ça, c'est la difficulté d'être pasteur. Le problème du pasteur, c'est quoi? Le problème du pasteur, c'est que je ne suis pas simplement le pasteur de Serge. Pour Serge, je suis son pasteur. Mais à part Serge, je suis également le pasteur de Maman Eugénie. À part Maman Eugénie, je suis le pasteur de cette sœur qui est manager général de Plisco. Je suis aussi le pasteur de l'ADG de l'ONATRA. Il était là ce matin, il n'est pas aujourd'hui là. Je suis aussi le pasteur du PDG de Michael. Et je suis aussi le pasteur de Maman Chouchou, qui est colonel de la police nationale. Et ça, c'est la difficulté du pasteur. Mon fils Serge, parce qu'il est étudiant, lui a un standing de vie et une perspective de vie. Maman Eugénie, parce qu'elle est parent et qu'elle est responsable, elle a une autre perspective de vie. Et l'autre sœur qui est manager de Visco a une autre perspective de vie. Lui peut trouver, à son niveau, que la voiture que le pasteur utilise, c'est trop cher. Ça ne lui convient pas. Pourquoi il utilise cette voiture? Alors que cet argent peut faire autre chose. Maman Eugénie, à son niveau, peut dire, ça va la voiture là, je suis content que mon pasteur roule dans une telle voiture. Et l'autre sœur là qui est manager va dire, cette voiture là ne convient pas à mon pasteur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la difficulté. À un moment donné, j'avais des problèmes de voiture, j'avais une Mercedes blanche, et puis elle a fait son temps, elle a vieilli. Et puis à un moment donné, un jour, j'avais une panne ici sur 24 novembre au coin là-bas, après la station, j'avais une panne. Et puis un frère était en train de passer, c'est le frère Lambert. Il s'est arrêté, et puis il est venu me dire, t'as dit, oyo que ça va tout sonner, yo, puis moutouko, boaka, moutouko, yo, t'as dit, ça la sonne. Et puis, l'après-midi, il m'a appelé, il dit, ok. Je te donne la voiture de mon épouse, tu roules avec jusqu'à ce que tu auras une voiture. Son épouse n'avait, ils avaient, je crois, juste cette seule voiture seulement. Ils me l'ont donnée pendant quelques mois. J'ai roulé avec, je l'ai gardée parce que pour lui, pour quelqu'un d'autre, ça ne ferait rien. Donc
Tout est question. Et ça, je vais revenir le mardi. S'il vous plaît, ne ratez pas le culte de mardi. Je vais te bénir le mardi, aujourd'hui déjà, d'une manière tu n'as jamais été béni, des choses tu n'as jamais écoutées. Je suis là dimanche, je suis là mardi, vendredi, la jeunesse a pris, je ne saurais pas l'air arracher ces jours. Le dimanche prochain, je viendrai là, parce que la semaine qui vient, je vais à Lubumbashi avec une grande équipe de la chorale pour une grande conférence là-bas. Mais avant que je ne quitte Kinshasa pour Lubumbashi, tu ne pèseras plus de la même manière sur la balance. Oh mon Dieu, je suis en train de dire, avant que je ne quitte Kinshasa pour Lubumbashi, c'est-à-dire avant le 31 juillet, ta présence à elle seule pèsera. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Cela veut dire que tu arriveras dans un endroit, tu n'as encore rien dit, mais le fait d'arriver là, tu pèses. Si ta parole n'était pas écoutée jadis, après ce matin, ta parole pèsera. Je dis que tes mots pèseront. Ce n'est pas de l'injustice humaine. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Même au ciel, il y a des voix. Lorsque ça s'élève, le ciel est mobilisé. Il y a d'autres personnes qui prient pendant une semaine. Les choses fonctionnent normalement. Les anges font ça normal. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'ils élèvent seulement la voix, oh Dieu, le ciel est mobilisé. Quelque chose se passera avec ta voix. Quand tu parleras à Dieu, le ciel sera mobilisé. Et quand tu parleras aux hommes, les gens s'inclineront. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que le prophète dit. Après ce culte, tu n'auras pas le même poids sur la balance. Je dis qu'après cette réunion, tu n'auras pas le même poids sur la balance. Tu n'auras pas le même poids sur la balance. Oh mon Dieu, quelque chose se passera ce matin. Tu pèseras lourd. Tu entends ce que j'ai dit? Tape la main du voisin, dit le prophète est venu pour moi ce matin. Tape la main de l'autre voisin, dit lui le prophète est venu pour moi ce matin. Alléluia. J'ai dit alléluia. Vous voyez des genres de personnes. Ah, ça m'a toujours émerveillé. Ça m'a toujours émerveillé. Un jour, un jeune homme arrive pour prier. Écoutez la prière que ce jeune homme fait. Ça, j'aime. Il arrive, la situation est catastrophique. Plus que catastrophique même. La situation, je parle de la mort de Lazare. Un jeune homme de 32 ans, il arrive devant la tombe de Lazare. Il se tient, il doit prier. On a vu des prières des prophètes de résurrection. Mais là, quelqu'un est resté 4 jours. Mais écoutez la prière. Là où il fallait prier, le jeune homme dit ceci. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais tu n'as même pas encore prié, il t'a exaucé où? Et il ajoute, je dis cela non à cause de moi, mais de ceux qui m'écoutent. Cela veut dire, si j'étais seul, je n'avais même pas besoin de dire. Donc lui, ses désirs au cœur sont déjà des prières exaucées. Quelqu'un entend ce que je dis? Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il dit, mais je dis cela à cause de la foule. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de foule, je n'aurais même pas dit. Mais tu as prié quand? Et puis il dit, Lazare! Des gens comme ça, ils pèsent sous la balance. Je déclare que tu pèseras sous la balance. Mais pour que quelqu'un pèse, écoute ce qui se fait. Melchisedec bénit Abraham. La bénédiction, je disais, c'est dire des bonnes paroles sur quelqu'un, mais ces bonnes paroles ne sont pas juste des sons en l'air. Ça contient le pouvoir, l'énergie, des capacités. Lorsque tu les déclares, ça entre en elle, et ces paroles-là, donc de là où elle était, ces paroles viennent. Voilà. Tu continues à déclarer, ça l'amène jusqu'à ce qu'elle arrive dans la même plateforme que toi. Donc le principe de la bénédiction, c'est que celui qui te bénit, le but c'est de t'amener au même niveau que lui. C'est pourquoi il est sans contredit, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. L'inverse n'est pas possible. Parce que le but de la bénédiction, c'est de vous élever jusqu'à un niveau où lui est. Elle ne peut pas me bénir parce que je suis là, elle est en bas. Mais moi, je peux le bénir pour lui donner la capacité de venir jusque là où je suis. Donc, en la bénissant, j'ajoute en elle des choses qui font qu'elle était en haut là-bas parce qu'elle ne pesait pas. Mais plus j'ajoute, elle descend jusqu'à ce que l'équilibre puisse s'établir. Merci ma fille, dites Chavez. Je n'entends pas, dites Chavez, fais comme ça, Chavez. Dites la vallée de l'équilibre. Et remarquez que ça ne se fait pas sous la montagne. Parce qu'à cause de l'altitude de la montagne, il y a beaucoup d'aléas qui empêchent l'équilibre. À cause de la pression atmosphérique là sous la montagne. Mais ça se fait sous la vallée. La deuxième raison est que c'est le supérieur qui vient chercher l'inférieur là où il est. L'inférieur ne peut pas venir en lui-même. S'il reste sous la montagne de Sion, personne n'arrivera là où il est. Mais le supérieur tend la main à l'inférieur, il vient dans la vallée de l'inférieur. Vous voyez? Il vient jusque dans la vallée, là où est l'inférieur. Il commence à déclarer, à le bénir. Et les capacités qu'il lui donne, le fait monter jusqu'à ce qu'il arrive au même niveau. Dites avec moi, vallée de Chavez. Dites au voisin, regarde le panier, c'est la balance, c'est l'équilibre. Cela suppose que le poids qui est ici, c'est exactement le même poids qui est là, pour qu'il y ait équilibre. C'est ce que le roi de Sodome allait faire. Il a initié Abraham à sa sorcellerie pour le placer en équilibre spirituel avec lui. Mais Melchisedec arrive, s'interpose, et il fait la même chose. Il bénit Abraham et il élève Abraham au même niveau. Écoutez, ce qui est plus grave maintenant. Ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que Melchisedec n'a pas béni Abraham par lui-même. Mais il a béni Abraham par le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre, qu'on appelle en hébreu El Elyon. Cela veut dire quoi? L'unité de mesure qui est placée ici en Saint-Marius, ce n'est pas Melchisedec, mais c'est le Dieu très haut. Oh, ça c'est quelque chose, tu as compris? Donc c'est le Dieu très haut qui est placé ici. Parce qu'il est béni par le Dieu très haut. Donc le Dieu très haut est ici. Melchisedec est un commissionnaire. Il parle sous la vie d'Abraham. Il est rempli de pouvoir, de capacité. Abraham monte, jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de Dieu. Et ça, je vais revenir le mardi. Vous allez aimer et ça va vous bénir. Écoutez-moi. Pourquoi je dis que ça c'est trop grave? De quel droit un être humain entrerait dans la balance avec Dieu et serait en équilibre? Parce que le Dieu dont nous parlons est le Tout-Puissant. Il est le Dieu très haut. Melchisedec le précise. Maître du ciel et de la terre. Et qui es-tu, homme, pour entrer en balance avec Dieu et qu'il y ait équilibre? C'est là où la religion à poser des interdits et des frontières que nous n'arrivons pas, nous n'avons pas le courage de franchir. Des choses que je vous enseigne, plusieurs pasteurs m'ont dit, j'ai partagé avec plusieurs pasteurs qui m'ont dit, après avoir écouté ces choses, m'ont dit, pasteur, tu as raison, ce sont des choses, soit mon esprit les avait saisies, ce sont des choses que je soupçonnais, je les sentais, mais je ne les avais pas en ordre, puis je n'avais pas le courage de les dire, mais du reste, tu as raison. Un autre pasteur m'a dit, pasteur Espérance, et je crois finalement que tu as raison avec ton enseignement, mais je refuse d'accepter et d'avaler ça. Il dit, je sais que tu as raison, mais je refuse d'avaler et d'accepter ça. Je pense pour des raisons qui lui sont personnelles. Je disais, de quel droit un homme peut entrer en balance avec Dieu? Dieu pèse tellement. Qui es-tu? Nous ne sommes que poussière. Comment on te mettrait avec Dieu et qui équilibre sous la balance? Savez. Mais c'est ça le but de l'ordre de Melchisedec. C'est là où l'ordre de Melchisedec nous amène. Je vais dire des choses graves, je l'avais promis depuis le début de l'année. Au mois de janvier, j'avais promis de dire des choses graves jusqu'à ce que les gens viennent me dire, arrête, ça devient trop grave, où est-ce que tu nous amènes? Écoutez ces choses. Dieu est une personne, mais Dieu aussi est un principe. Chut. Tu es une personne, mais Dieu aussi est une nature. C'est un rang, c'est une plateforme, c'est une dimension. Écoutez-moi. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible ne dit pas que Dieu a l'amour, mais Dieu est l'amour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire si tu mets Dieu ici, tu mets l'amour là-bas, il y aura quoi? Ok. Jésus-Christ est une personne. Il est Dieu. Mais Jésus-Christ est aussi un principe. Il est aussi une dimension, il est aussi une nature. Cela veut dire quoi? La Bible parle de la sagesse personnifiée dans le Proverbe. Cela veut dire si tu prends cette sagesse, tu le mets ici, tu mets Jésus là-bas, il y aura quoi? Équilibre. Parce que la Bible ne dit pas qu'il a de la sagesse, mais qu'il est lui-même cette sagesse personnifiée. Qu'est-ce que Daddy enseigne? Qu'est-ce que Daddy dit? Je vais le rendre plus clair, mais mes exemples ne seront pas parfaits, parce que je parle du domaine de la divinité. Mais mes exemples serviront simplement que vous puissiez saisir et comprendre les grandes idées qui sortent de ces concepts que je suis en train de développer. Dieu étant que personne et Dieu étant que principe. Je préviens que mes exemples ne seront pas parfaits, parce que de l'autre côté, c'est la divinité. Au premier que j'ai donné un exemple, je suis obligé peut-être de le changer parce que la personne n'est pas là. De toute façon, je les garde. Je disais au premier culte que l'ADG de l'Onatra est une personne. C'est le pasteur Serge. Mais l'ADG de l'Onatra est également un statut, une position, un rang, un principe dans l'administration du portefeuille congolais. Je vais y revenir. Le pape est une personne, mais le pape est également un principe, une, je voulais dire, institution, un niveau, une hiérarchie dans l'échelle de l'Église catholique romaine. On cherche des exemples loin. Je vais citer les noms des personnes, mais comprenez, parce qu'il est dans le sens négatif. Je ne vais pas mettre le nom de quelqu'un. Lorsque nous disons Madame Untel, lorsque nous disons Madame Untel, cela veut dire quoi? Cette dame a épousé Monsieur Untel. Cette dame est une personne, mais Madame Untel est également un rang, un statut, un principe. Cela veut dire elle est personne. Parce que quelqu'un qui a 35 ans, qui est né de tel père, de telle mère, à tel lien, tel niveau d'études, tel enfant, ça c'est la personne. Mais le statut ou le niveau, c'est quoi? C'est que une autre femme peut aussi avoir ce statut-là. Si elle arrive à mourir et que son mari épouse une autre dame, cette dame sera aussi monsieur, madame, un tel. Même par le divorce. Que nous réprimandons bien sûr. Même par le divorce. Si la dame, le monsieur arrivait à divorcer avec madame, madame n'est plus madame un tel. Et qu'elle épouse une autre personne, cette personne devient madame un tel. Dites au voisin, niveau, statut, nature d'une part et personne d'autre part. Est-ce que vous comprenez jusque là? Bougez la main droite si vous comprenez. C'est profond. Il faut que je me rassure. Le pasteur titulaire de Mangembo est une personne, mais le pasteur titulaire de Mangembo est également une position. C'est un rang. Une personne, c'est moi pour le moment. Mais un rang veut dire que ça peut être pasteur Timothée demain. Ça peut être pasteur Joachim après 10 ans. Le pape actuel s'appelle qui son nom est en allemand, c'est toujours difficile à retenir. C'est qui? Non, non. Benoît, c'est justement ça, le statut. Vous voyez? C'est qui? Hein? Les noms allemands sont difficiles toujours. Hein? Ça, c'est la personne. Mais Benoît XVI, c'est le statut. Quelqu'un comprend maintenant? De la même manière, avec Dieu, c'est comme ça. Dieu étant que personne le Père, personne ne peut devenir lui ni se comparer à lui. Et d'ailleurs, même le pape étant que personne, personne d'autre ne peut être lui. Parce qu'en fait, chacun de nous, créé à l'image de Dieu, nous sommes uniques comme Dieu est unique. Même si vous êtes jumeaux, vous êtes uniques, la preuve, c'est vos empreintes digitales. Toutes les recherches ont prouvé que personne n'a les mêmes empreintes digitales que l'autre. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais Dieu étant que principe, Dieu étant que nature, vous pouvez y arriver.
Oh mon auditoire, c'est très fort.
Écoutez maintenant. Que dit le psaume 82? Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu et il juge des dieux au pluriel. Et il dit, jusqu'à quand vous laisserez la situation telle qu'elle est? Bon, il cite beaucoup de choses, l'orphelin, les veuves, le misérable, toutes ces choses-là. Vous pouvez les remplacer par beaucoup d'autres choses. Jusqu'à quand tu laisseras ta famille dans ces niveaux? Jusqu'à quand tu laisseras ton pays comme si tu n'étais pas là? Jusqu'à quand les choses seront ce qu'elles sont? Dieu juge des dieux. Et il dit lui-même, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous vivez comme des hommes. Et vous mourrez comme des princes. Vous voyez, nous déjà là, si j'ai la grâce de manger avec le prince Charles, ou le prince Albert, ou le prince Philippe de Norvège, ou n'importe quel autre prince, Albert de Monaco, si j'ai cette grâce de les rencontrer, de manger avec lui, en tout cas, je vais mettre les photos dans l'internet, je vais parler, je vais écrire dans des livres, partout je vais dire, j'ai mangé avec le prince Albert. Vous entrerez ici, vous verrez des photos dans mon bureau, avec le prince Albert. Pourquoi? Parce que c'est une notoriété, c'est une dignité dans ce monde. Mais Dieu dit, si tu vis une vie, et qu'à la fin de ta vie, tu es semblable à un prince de la terre, c'est que tu as lamentablement échoué. Parce que Dieu ne te place pas au rang de prince. Come on, acclame! Alléluia! Donc ce manque de révélation serait pour moi de me réjouir parce que j'ai salué le prince Albert de Monaco. Alors que Dieu dit, si tu meurs comme lui est mort, après avoir fait tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire, ego, vous mourrez, Dieu s'étonne de toi parce que toi, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un prince quelconque. Toi, tu es de la race de Dieu. C'est là où Jésus, le pharisien, vient dire, toi qui es un homme, tu te prétends être Dieu. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça ce qu'ils ont dit à Jésus, non? Toi qui es un homme, tu prétends être Dieu. Jésus dit, mais votre loi ne dit-elle pas de vous que vous êtes des dieux? N'est-il pas écrit de vous? Si moi le fils, vous dites c'est blasphémé, mais vous déjà à votre niveau, il est dit de vous que vous êtes des dieux. À combien plus forte raison, moi le fils venu du Père? Ça c'est ce que j'appelle la nature divine, la dimension divine, les rangs divins. C'est différent de la personne de Dieu lui-même. Et il y a une invitation dans la Bible à ce que nous puissions fonctionner à ce niveau, à ces rangs-là. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous pouvez changer de situation. Vous pouvez nourrir des orphelins, délivrer les captifs. Mais vous avez peur de méchants. Comme si, mais j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous vivez comme des hommes. Donc cette vie que tu mènes, Dieu n'est pas content de cela. Parce que la vie à laquelle il t'appelle, c'est une vie supérieure. Dites amen que je t'entends. 2 Pierre 1, verset 4, qui a une Bible pour lire, qui peut m'aider à lire. Je vais lire quelques écritures pour que ça devienne plus clair et que tout le monde comprenne. Qui a trouvé? 2 Pierre 1, verset 4. Tu dois promener ton micro, non? Celui qui trouve. Vous lui donnez le micro. Écoutez ça, 2 Pierre 1, verset 4.
2 Pierre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de la part
de Dieu les plus grandes et les plus précieuses promesses
afin que par elles nous devenions participants à la nature divine
en fouillant la corruption qui existe dans le monde. Alléluia!
Yes.
La Bible dit Dieu nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est ce que le psaume 87 dit. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Mais le but de ces promesses, c'est enfin que nous devenions participants de la nature divine. que nous entrions dans la nature de Dieu, que nous puissions fonctionner, manifester, refléter la divinité. Je suis venu ce matin t'équiper de la capacité de manifester la divinité. Je suis venu ajouter un poids à ta vie. Tu dors dans un endroit comme si tu n'étais pas là, parce que tu ne pèses pas. Tu arrives dans un bureau comme si tu n'étais pas là. Tu vas dans un marché vendre comme si tu n'étais pas là. Je suis venu lever ma main par le Dieu très haut afin de te bénir au nom de Jésus. Cela veut dire que je t'amène pas seulement à mon niveau, parce que je te bénis au nom de Jésus. Je t'amène à la dimension de Jésus pour que tu sois en équilibre, en balance avec Jésus. Frères et sœurs, nous sommes tous d'accord que Jésus est Dieu. Qui sont d'accord avec moi? Dieu 100%, qui sont d'accord? Dieu par essence, qui sont d'accord? C'est-à-dire par nature. Merci. Mais écoutez ce que Jésus dit. Des œuvres que je fais, vous en ferez. Et vous en ferez même de plus grandes. Jésus dit, lorsque vous vivrez correctement, on vous mettra dans une balance, vous serez exactement comme moi. Et il ajoute même que vous pouvez faire même au-delà de ce que je fais. Éphésiens 4. Vous voyez que je ne prêche pas comme ça. J'ai lu mes textes au départ et puis je parle librement. Mais je suis obligé de revenir texte après texte parce que la matière est consistante. Afin que vous compreniez que Daddy n'invente rien, n'exagère rien. C'est ça la Bible. Éphésiens 4. Et vous avez trouvé, Pasteur Didi ou quelqu'un d'autre qui a trouvé. Éphésiens 4, à partir du verset 11, nous allons. Éphésiens 4, 11, notez, puis vous rentrez à la maison chercher ces écritures. Écoutez, quelque chose s'est passé ce matin. Personne n'est rentré comme il est venu. Je suis venu t'équiper de la capacité de monter. Que tu pèses dans la balance et que ta vie monte. Que tu changes des rangs sociaux. On y va. Il a donné aux uns comme apôtres.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère, jusqu'à son corps Christ, jusqu'à ce que nous puissions parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la stature d'un fait, à la stature parfaite de Christ. Le but pour lequel les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes vous ont été donnés, c'est pour l'édification, le perfectionnement des saints, afin que nous soyons tous sans exception, pas seulement des encadrés, pas seulement des diacres, afin que nous devenions tous à l'état d'homme fait, à la connaissance du Fils de Dieu et à la stature parfaite de Christ. Regardez cette balance, la statue parfaite. On prend Jésus et tout ce qu'il a, sa divinité, sa sagesse, sa gloire, sa grandeur, on le met là, on vous prend, on vous met de l'autre côté, équilibre. Dites avec moi, savez. Je n'entends pas Christ, savez. C'est ça l'état d'homme fait. Et n'oubliez pas Galates, si un héritier est enfant, il ne défait en rien un esclave. C'est ça notre problème, lorsqu'un héritier est enfant. Il ne diffère en rien en un esclave. Jusqu'à ce qu'il devienne majeur, autant marqué. Là, il entre en équilibre. Vous voyez que je n'invente rien. C'est la volonté de Dieu. Et même l'invitation et le plan de Dieu. Nous sommes d'accord que Jésus est Dieu. Oui, 100% oui. Par essence, oui. Mais la Bible dit que nous aussi, des ministres de Dieu nous ont été donnés pour que nous soyons perfectionnés, nous soyons encouragés, taillés, nous soyons équipés pour faire l'œuvre du ministère jusqu'à ce que tous, sans exception, nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Et que nous puissions arriver à l'état d'homme fait. Quel est l'état d'homme fait? La connaissance du Fils de Dieu. La stature parfaite de Christ. Ça devient clair. Le but de Dieu est qu'une fois mis dans la balance, avec lui-même ou avec son Fils, qu'il y ait équilibre. Mais cela se passe au moyen de la bénédiction qui vous prend d'en bas et qui vous emmène en haut. C'est pourquoi, frères et sœurs, Melchisedec a béni Abraham. Et vous remarquerez avec moi que Melchisedec lui-même est passé par le même processus. C'est pourquoi je tiens Mordicus. Melchisedec n'est pas Jésus-Christ. Ça, c'est ce que les théologiens pensent, c'est ce que les prédicateurs, pour la plupart, pensent. Melchisédek, je le répète à haute voix, n'est pas Jésus-Christ. Hébreux 7, verset 3, maman Didier, Hébreux 7, verset 3, parle de Melchisédek. Écoutez ce que Hébreux 7, 3 nous dit. Hébreux 7, verset 3, suivez ça. Parce qu'on a enseigné la christophanie, c'est-à-dire que Melchisédek, c'est l'apparition de Christ avant et sa venue sur terre. Je ne crois pas en ces choses. La Bible n'en parle pas. Il n'est pas Jésus. Écoutez, Hébreux 7, verset 3.
Qui est sans père,
sans mère, sans généalogie, sans débit, commencement de jour, ni fin de jour.
Mais qui
est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek de mère sacrificataire à perpétuité. Vous voyez? Melchisédek est sans père, sans mère. Sans commencement de jour, sans fin de vie. Et il est sans généalogie. Je vais faire une parenthèse. Je vais revenir. Écoutez la parenthèse. Lorsqu'on parle de la généalogie biblique, il faut au moins qu'il y ait trois générations. Grand-père, père et fils. C'est alors qu'on parle de la généalogie. Si tu vois seulement que tel est fils de tel, ça c'est pas la généalogie. La généalogie va toujours au moins trois générations. Abraham, Isaac et Jacob. C'est la généalogie. Dites-moi maintenant. Lorsque je dis que nous sommes sans généalogie, parce que nous sommes membres de l'ordre de Melchisédek, dites-moi, quelle est notre généalogie? Tu ne peux pas faire spirituellement ta généalogie en trouvant trois générations. Elle n'existait pas. Il y a Dieu le Père, et puis il y a Jésus, et toi et Jésus, c'est le même rang. Plusieurs chrétiens croient que Dieu, c'est le grand-père, Jésus, c'est le Père, nous sommes les fils. Non! La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, et co-héritiers avec Christ. Cela veut dire, Dieu est notre Père, Jésus est notre frère. La Bible dit, enfin, qu'il soit le premier-né de plusieurs frère, dites au voix de Jésus est mon frère. Dites-lui, il n'y a que deux générations, Dieu et moi. Dites, Jésus est dans la même lignée que moi. Dites au voisin, c'est comme Isaac, Jacob et Esaü. Dites-lui. C'est deux ou trois? Isaac, Jacob et Esaü, c'est deux ou trois? Je demande, c'est deux ou trois? Parce que Jacob et Esaü, c'est la même génération. Isaac, c'est le père. Il en est de même. Dieu est notre Père. Jésus et nous, c'est la même génération. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes sans généalogie. On ne trouve pas trois générations. Et maintenant, ce verset continue, comme l'a dit le pasteur, l'a lu le pasteur Didi. Il dit, c'est Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Dites-moi, qui est rendu semblable à l'autre? Mais comment les prédicateurs disent que Jésus a été rendu semblable à Melchisédek? Ça, on prend ça où? Donc, cela veut dire, l'unité de mesure n'est pas Melchisédek. L'unité de mesure, c'est Jésus, il était déjà là, dans sa position. De toute éternité, lui est Dieu. Mais Melchisédek a été initié, élevé jusqu'à ce qu'il ait rendu semblable. Il est en équilibre avec le Fils de Dieu. Comment on établirait une comparaison entre un même individu ou un même principe? La comparaison, c'est entre deux personnes différentes. Lorsqu'on dit que Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu, ça montre clairement qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Mais il a été initié, élevé, béni, élevé, jusqu'à ce qu'il a atteint les rangs du Fils de Dieu. C'est ça la statue parfaite. Oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que ta vie ne sera plus jamais la même. Ça, c'est le dimanche de Chavé. Dites au voisin, le dimanche de Chavé. Dites au voisin, Dieu est venu dans ma vallée. Il a envoyé un commissionnaire. Oh mon Dieu, pour te bénir, je déclare que ta vie sociale monte. Que tu changes de bureau et que tu montes. Que ton salaire monte. Que ton chiffre d'affaires monte. Que tes chiffres de vente du mois montent. Que ta santé monte au niveau de Dieu. Que tout ce qui est dans toi monte. Que tu entres en équilibre avec Dieu. Et cela se fait au moyen de la bénédiction. Lorsque je dis que Dieu te bénisse, ce n'est pas du vent et des paroles en l'air. C'est un pouvoir que je t'investis. Et ce pouvoir te lèvera Quelqu'un entend ce que je dis? J'ai raconté ça au premier culte. Écoutez ça. La semaine passée, l'autre mardi, lorsque nous avons fini, sacrificateur sous le trône, le mardi qui a suivi, j'ai voyagé, je suis parti. Alors, lorsqu'on arrive le matin, l'avion atterrit là où nous allions. Lorsque l'avion atterrit, nous sortons. Et puis, vous cherchez des bagages, nous sommes en train de partir. Je vois quelqu'un derrière en train de m'appeler. Pasteur, non, il n'appelait même pas pasteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et nous qui voyageons ces jours ici, outre-mer, quand tu arrives dans un lieu, les gens t'appellent comme ça. Tu n'es sûr de rien parce qu'on est en train de maltraiter, de menacer des pasteurs qui viennent d'ici et beaucoup d'autres choses. Et puis là, je commence à marcher. J'allais un peu plus vite. Lui a appelé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey, moi, j'allais plus vite. Et puis, plus loin là-bas, j'ai vu des policiers. J'ai dit, je ne m'arrête pas jusqu'à ce que j'arrive chez les policiers. À un moment donné, il a accéléré sa marche. Il est arrivé à un niveau, il m'a tapé comme ça. Les policiers, hey, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi aussi, j'ai accéléré. Et j'arrive, il y avait 3 policiers là. Alors là, je me tiens là devant les policiers. Comme ça, on va voir comment ça va se passer ici. Oh mon Dieu. Comme dit la Bible, nous sommes devenus persécutés au-dedans et en dehors. Que Dieu nous aide. Je disais à quelqu'un, Mikolo, ce policier, tout le monde, c'est un bébé. Mais oui, quand même. Alléluia. Et puis là, les policiers sont là, 3. Et puis moi, je m'arrête là. Oui, monsieur. Il dit, c'est toi le pasteur Espérance. J'hésite un peu. Et puis j'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, oh, tu es venu de Kinshasa. J'ai dit, oui. Tu vas à Montréal? J'ai dit, non, je ne vais pas à Montréal. Il dit, mais j'aurais voulu que tu ailles à Montréal. Qu'on aille ensemble. Je suis en train de partir à Montréal. Je les regarde. J'étais pas sûr, quoi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et des policiers étaient à côté. Là. Et puis là, il me dit, écoutez l'histoire de ma vie. J'ai tellement souffert. J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire. Parce que le courage est un don naturel que Dieu m'a donné. Je sais me débrouiller. Je me suis bâti. Mais rien ne marchait dans ma vie. Il y avait comme un envoûtement. Tout ce que je faisais, c'est noyé. Une fille de notre quartier est venue me voir un jour et dit, mais je peux t'amener chez mon pasteur. Tu as beaucoup souffert. Tu es courageux, tu fais tout ce qu'un homme peut faire. Mais tu ne réussis pas, je peux t'amener chez mon pasteur. Ça, c'est lui qui me raconte. Il dit, oh, dit, vos histoires de prières là. Dieu a donné aux gens l'intelligence, chacun doit se débrouiller. C'est quoi vos prières là? Et puis la fille est partie. L'autre jour, la fille revient. Insiste, il dit, si tu peux voir mon pasteur, je ne te demande pas de devenir membre de notre église. Mais viens seulement voir mon pasteur qui prie pour toi. Et il me raconte que cette fille l'a amenée dans mon bureau. Il l'a présentée. Il dit, c'est un vieux du quartier, un grand frère du quartier. J'aimerais que tu pries pour lui. Il a des problèmes, tout ce qu'il fait ne marche pas. Et la fille voulait nous laisser seule. Lui n'a pas accès. Il dit, non, tu peux rester. Parce qu'il n'était pas sûr, il ne me connaissait pas. Je lui ai demandé de se mettre à genoux. Ça, c'est lui qui me raconte, là à l'aéroport. Il dit, tu as ouvert ton cœur. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prier pour moi comme ça. Il dit, tu as commencé à me bénir. Ton cœur était ouvert. Parce que j'ai senti, j'étais enveloppé comme d'un vent, comme un manteau, quelque chose m'a enveloppé. Tu as commencé à dire que l'argent te cherche, que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse, que tes portes s'ouvrent, que tu réussisses, que la malédiction soit maudite et que tu as déclaré des choses. Je t'ai saisi. Il n'était pas converti. Je ne suis même pas sûr qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Parce que lui-même a dit, je ne prie pas dans vos histoires là, mais je viens de temps à autre, à gauche, à droite, s'il y a une activité au stade et puis je vais. Mais lorsque j'ai fini de prier, ça c'est lui qui me raconte. Il dit qu'il a sorti l'argent de sa poche, tout ce qui lui restait. Et ce n'était pas grand-chose évidemment. Quand les gens souffrent, ils n'ont pas grand-chose. Tout ce qui lui restait, il a sorti ça. Il m'a dit, prends cet argent pasteur, nourris même pour un jour une veuve ou des orphelins de ton église. Il a laissé sur ma table. Et il me demande, tu te souviens? Et là, je me souviens. Je me rappelle de cet épisode-là. Parce que je sais que cet argent, je l'ai donné à une maman veuve. Ça, je me souviens. Il dit, depuis ces jours-là, je suis sorti de ton bureau. Je ne suis pas revenu prier avec vous. Je ne prie pas comme vous. Je ne connais pas toutes ces choses-là en profondeur. Mais depuis ces jours-là, je suis sorti de ton bureau. J'ai toujours senti quelque chose m'envelopper. Lorsque j'ai une transaction d'affaires, lorsque j'ai un marché, je sens que je sens dans ton bureau revenir. Il dit, depuis ces jours-là, mon niveau de vie a commencé à s'augmenter. Les portes ont commencé. Il dit, ça fait des dizaines d'années. Il dit, ça fait des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu que tu ailles à Montréal. J'allais te montrer mes biens que j'ai. Et comment Dieu m'a fait du bien à partir de ta vie. Comment Dieu m'a élevé. Il me dit ceci en conclusion. Écoutez, frères et sœurs. Il me dit, pasteur, s'il te plaît, bon délire. Yoko baby sate. Yo banganzambe. Kangamana. Pardon, pasteur. Il dit, moi, je ne connais pas ces choses, je ne prie pas. Mais je sais que tu as quelque chose pour relever les gens de la poussière. Et d'en faire des grands et de grands hommes. Il me dit, pasteur, na bon délire ko baby sate. Kangamana. Pardon, pasteur. Tout ça, ça arrive. Parce que tu as quelque chose, tu as changé ma vie. Et je veux que plusieurs, leur vie soit changée pour toi, par toi. Et enfin, il a mis sa main dans la poche. Il m'a dit, ça, tu achètes juste un coca. On s'est vu au mauvais moment. Il fallait qu'on se voie à Kinshasa ou à Montréal. Ça, tu achètes un coca. Mais fongo la boue. Coca, nous autres, minene. Parce qu'il y a des coca qui peuvent vous acheter tout un camion là qui circule de coca. Vous voyez des camions là? Juste un coca d'acheter tous ces camions là. Frères et sœurs, ça marche. Je suis mandaté par Dieu pour mettre dans ta vie des choses qui te donneront du poids. Je déclare que tu ne resteras pas la même personne. Oh mon Dieu, avant la fin du mois de juillet, j'ai entendu. Oh Ramando Sakaramando Sara. J'ai entendu quelqu'un témoigner ici ce matin que le jour où Daddy a dit avant la fin du mois de juillet, des gens auront de nouvelles voitures. Il a crié dans son cœur et là, il a une nouvelle voiture. Lui-même dit que c'est plus qu'une voiture. Ça marche! Ça marche! Ce ne sont pas juste des paroles que nous venons écouter. Il y a un pouvoir, il y a des capacités qui se transfèrent. Paul dit aux Romains, je désire venir à vous afin de vous communiquer quelques dons et quelques grâces. Recevez ces capacités. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est à vous prospère. Tout ce qui est à vous marche. Passez les dimanches de Chavé. Je t'ai amené à la vallée de Chavé afin de t'ajouter des choses pour que tu commences à peser. Que ta présence pèse. Ta parole pèse. Oh mon Dieu, reçois ça au nom de Jésus. Et que tu sois rendu semblable au Fils de Dieu. J'ai dit que tu sois rendu semblable au Fils de Dieu. J'ai dit que tu sois rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Dis au voisin, mardi on ne manque pas, mardi on ne rate pas. Je n'entends pas. Dis au voisin, mardi on ne rate pas. Dites-lui l'ordre de Melchisedec. Dis au voisin, bienvenue à l'église de Mangembo. Adhérez à l'ordre de Melchisedec. Dites-lui, accédez au surnaturel au nom de Jésus. Mettez-vous deux minutes et puis on termine. 3, 4, 5, on termine. Et frères et sœurs, je n'exagère rien. La Bible dit ceci. Tel il est. Nous sommes où? Ce verset ne se termine pas comme ça. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas tel nous serons au ciel. Tel lui est maintenant au ciel. Tel nous sommes sur la terre. N'acceptez pas ce qui est moins, frères et sœurs. Et écoutez-moi, en fait, mon problème, oh mon Dieu, ce n'est pas là où tu as dormi. Ça ne compte pas là où tu as dormi. Des lits et des matelas que tu vois là, on les fabrique. Des lits et des matelas, on les fabrique. Cela veut dire, hein, tu peux devenir propriétaire de l'usine de Kingabo qui fabrique des lits et des matelas. Toi, tu dis, il parle, est-ce qu'il sait d'où je vis? Est-ce qu'il sait ce que je vis? Ce que tu vis ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce qu'on mange ne veut rien dire. Parce que la vie a la capacité. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Vous savez pourquoi beaucoup de gens s'inscrivent dans ces choses? Parce que tu dis au fait, mais David dit ces choses ici, les rangs de Dieu, parfait au rang de Jésus-Christ. Mais moi, je n'ai même pas étudié. Je vais te dire une chose. Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu a dit quoi? Je te donnerai Aaron, ton frère, il sera ton prophète, toi tu deviendras Dieu pour lui. Cela veut dire, hein, ce que tu n'as pas n'est pas important. Si tu dis, Seigneur, je ne sais pas parler, Dieu dit, il te donnera un Aaron. Et toi tu deviendras pour cet Aaron-là Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Cela veut dire, même si tu ne connais pas français ou l'anglais, si Dieu te bénit, il va te donner des Aarons.
quelqu'un qui a été à l'université, qui a appris l'anglais, il deviendra ton interprète. Tu fais aller en Amérique, il va avec toi. Toi, tu parles, lui transmet. Il translate. Il interprète, toi, tu le payes. Quelqu'un comprend? Je disais ce matin, oh, moi, je n'ai personne, je n'ai pas de relations. Écoutez-moi. Ce qu'on appelle des relations, écoutez bien. Il y a des gens qui sont puissants sur la terre parce qu'ils n'ont que des carnets d'adresses. Tu comprends? Donc, lui n'a pas de poste. Oh, il n'est pas. Non, il a seulement des carnets d'adresses. Donc, il connaît. Oh, nous avons besoin des armes en Irak. Il dit, ok, attendez. Appelez M. Kalalila au numéro tel. Lui vous renseignera. Oh, nous avons besoin du bois au Gabon. Les bois au Gabon. Attendez, appelez Madame Omba. Lui va vous transmettre. Oh, nous avons besoin des diamants au Congo. Appelez Madame Ngalula, la femme de Tchidjibindi. Il va te livrer autant de quantités. Maintenant, tout ce qu'il fait là, les gens le payent à cause de ça. Il y a des gens qui n'ont que des carnets d'adresses. Alors, lorsque Dieu te fait Dieu, il te donne des arons. Il prend cet homme qui connaît des gens que toi, tu ne connais pas. Toi, tu commences à les payer, lui contacte des gens. Pour... Oh! Tape la main du voisin. Le bas de voisin, c'est qu'on a un aron dans la carte. Le bas, et le coyo sangui, aron, koyo na yango. Mais toi, tu seras Dieu pour aron. Toi, tu dis, oh, daddy, je n'ai pas de maison. Daddy, qu'est-ce que... Écoute-moi, la maison, c'est fait, c'est quoi? Il y a des gens, maintenant, que nous parlons, qui s'inscrivent pour l'année prochaine à la l'IBTP. Donc, ils vont à l'école apprendre comment construire les maisons des autres. Les autres, là, c'est toi. Dites au voisin, il y a un aron. Quand Dieu te bénira, il fera de toi Dieu. Pour le pilote qui a été à l'école de pilotage, il devient ton pilote, toi tu le payes. Toi tu n'as pas appris le pilotage, mais toi tu deviens Dieu pour lui. Mais c'est là où Dieu dit à Abraham, hein? Frères et sœurs, Dieu dit à Abraham ceci. Dans Genèse 12, lorsqu'il rencontre Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers les lieux que je te montrerai. Et je te bénirai. Vous voyez? Comment nous lisons la Bible? Moi, je ne comprends pas. Comment nous avons enseigné que Dieu a béni Abraham dans Genèse 12? Il ne l'avait pas béni. Il avait promis de le bénir. Mais il savait qu'un jour, il rencontrerait Abraham à Chavé. La bénédiction est arrivée dans Genèse 14 à Chavé. Genèse 12, ce n'était qu'une promesse, je te bénirai. Et lorsque je te bénirai, c'est-à-dire, je te prendrai de la poussière, je t'amènerai à mon niveau. Et lorsque tu arrives là, comme mon nom est grand, ton nom deviendra grand. Il ajoute plus loin, et tu deviendras une source de bénédiction. De quel droit un homme peut devenir une source? Parce qu'il y a Dieu seul qui est source. Mais quand Dieu t'amène à sa dimension, mais tu deviens comme lui, tu entres dans sa nature. Et il ajoute, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera... Mais yo kominani yango mbuta lui malamu na yo apambolami. Alors lui mabena yo abetami. Yo kominani. Donc tu es amené au rang de Dieu. Allez vers les histoires, je connais pas. Je n'ai pas. Il y a des arons. Alléluia. Il y a des gens qui étudient pour toi. Ils font des grandes études. Ils font des spécialités. Assis ici droit, assis ici spécialité, fiscalité. Assis ici fiscalité, dans le droit maritime international. Tout ça c'est pour toi et toi tu ne le sais pas. Je dis que Dieu fera de toi Dieu pour quelqu'un. À un moment donné, la vie devient intéressante. Vous savez qu'il y a des familles qui ont des porte-parole. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas une compagnie. C'est juste une famille normale, comme la famille Rabino. Mais ils ont un porte-parole officiel. Qu'ils payent, qu'ils engagent. Et ce type-là, il a des diplômes en communication. Il a des diplômes en droit, un grand avocat. Mais il est juste le porte-parole. Si quelque chose arrive à la famille, des bruits là-haut, vous ne dites rien. Lui seulement, il passe et dit, je parle au nom de la famille. Ta famille, c'est qui encore? Bon. Donne-moi le nom, dis-lui pourquoi. Ta famille, c'est qui encore? Donne-moi ton nom. Il dit, j'ai un grand monsieur avec des grands diplômes. Hein? Ils sont là, la presse, toute la presse est là. Je suis venu parler de la part de la famille, je suis le porte-parole. Cette histoire qu'on avait engrossé leur fille là, c'est une fausse histoire montée de toutes pièces et tout et tout. Et puis lorsqu'il termine, les journalistes, mais c'est le porte-parole. Et là, il est en train de partir dans la voiture. Hein. On le suit, qu'est-ce qu'il part. Vite au voisin, il y a des arômes. Vite au voisin, il y a des gens à autres chauffer dans la comptabilité héros. Le banac voisin n'est pas là. Le banac voisin n'est pas là. Gestion. Le banac voisin n'est pas là. Gérer. Ah. Come on. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ça marche comme ça. Dites au voisin, ça marche. Dites au voisin, il y a des arômes. Reçoir. Il y a des arômes dans la vie. Incapacité, les arômes le combleront. Tu n'as pas besoin de tout connaître. J'ai dit que tu n'as pas besoin de tout connaître. Il y a des gens qui maîtrisent des domaines de la vie. Ils s'occuperont de toi. Parce que Dieu te fera Dieu pour eux. Qui a mère que je t'entends? L'Esprit m'a dit, ouvre les yeux. J'ai vu une fille pendant l'adoration, ça chauffait ici. Elle est venue pour adorer ici. Et lorsqu'elle est venue, elle s'est mise à genoux. Lorsqu'elle s'est levée pour partir, je vis comme une masse de sang coagulé noir, très noir, sortir ici de chez elle. C'est resté tombé ici, elle est partie. Pour dire, les maladies, c'est rien, frère. Le chômage, c'est quoi? Le célibat, c'est quoi? Cette lettre-là, c'est quoi? Donc, quand tu atteins le niveau dont nous parlons, Ningana. Écoutez-moi. Je suis en train de dire quoi? La Bible dit, hein, lorsque nous étions enfants, nous étions soumis au rudiment des éléments du monde. Vous connaissez les versets? Vous ne connaissez pas les versets? Lorsque nous étions enfants, nous étions soumis au rudiment, donc les choses élémentaires du monde. Cela veut dire quoi? Ngunga suyo, ozi malaria. Ça, c'est le rudiment. Ça, c'est le rudiment du monde. C'est-à-dire, ce sont des choses élémentaires de la vie. Au microbe, côté des caresses, maman, je lui ai montré bien embête, on dit, ah. Et puis on a eu fièvre, et puis on dit, on dirait ce matin. Ça c'est toi-même qui dis, hein, et ce matin, non, qui nous a déjà chauffé. Et bien, nous, on l'a dit, tu expliques au téléphone, on peut nous l'a dit. Ça c'est le rudiment du monde. Quand tu atteins une dimension, on peut nous soyez, soyez au Dieu. Parce que je voulais dire, les rudiments du monde sont les logiques de la vie, hein, élémentaires du monde. Les lois dans lesquelles, la Bible dit, lorsque nous étions enfants, Paul dit dans la foi, donc nous étions enfants dans la foi, à ce moment-là, nous aussi nous étions soumis à ces lois-là, hein, rudimentaires de la vie. Nous étions soumis. Mais lorsque nous avons grandi, nous sommes devenus fils. Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Ngonga swanga pesanga malaria. Oh, non. Je déclare, cela veut dire que tu réussiras très vite. Alléluia. Arrêtez avec ces rudiments du monde. Arrêtez avec ces rudiments du monde. Plus nous grandissons. Toi, tu penses que chaque jour, quand tu viens ici, tu perds ton temps. Tu as travaillé toute la semaine, il y a des gens qui dorment jusqu'à ces lieux. D'autres sont allés à Kinkole, à Maluku, vous les trouvez plein là-bas. Toi, chaque dimanche, tu viens ici pour jouer. Non, tu viens pour recevoir les rémas de Dieu et la capacité de prospérer. Quand on te mettra dans la balance avec eux, tu pèseras plus que eux. Mouta, amesana comme mégayo, améko sous semaine, yo. Que je te dise quelque chose. Que je te dise quelque chose. Si tu vas dans un restaurant, tu dis, je vais manger les steaks. Morceau de viande la grillée. On dit combien de grammes? 400 grammes. Va passer au lait en haut. Ce qu'on m'a dit balance. Au bas, c'est 400 grammes? Mais au lait, 400 grammes, non? Au bâtir la pomme de terre, n'a pas payé. C'est le total 500 grammes, 2000 kilos. Aux alaki 60, aux alaki 70 kilos. Ce qu'on sort maintenant, combien 70, 500? Bon, il faut que ça entre dans le système. Que le système le travaille, chasse les déchets, il récupère les protéines, les vitamines. Après un temps, kilo n'osa nini. Alors quand toi tu m'écoutes, tu dis, n'ayez que le côté. Tu veux sentir quoi? Mais c'est entré. Et comme c'est entré dans le système, quelque chose se fait. Ton poids s'augmente. La gloire vient sur ta vie. Vous voulez que je vous dise? L'Ancien Testament nous donne la révélation du Père. La période intertestamentaire entre les deux testaments nous donne la révélation du Fils qui est venu sauver le monde. La nouvelle alliance, depuis la chambre haute, nous donne la révélation du Saint-Esprit qui a été étouffé au cours des siècles, mais réveillé à plusieurs reprises. Et particulièrement dans les années 1900, c'est la révélation de l'Esprit qui a commencé le mouvement charismatique et pentecôtiste dans lequel nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous annonce que nous sommes entrés dans une autre saison. Cette fois, ça ne sera plus la révélation du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. Mais ça sera la révélation des fils de Dieu. Les mots, la création a vu la révélation du Père. La création a vu la révélation du Fils de Dieu, Jésus. La création a vu la révélation du Saint-Esprit. Mais la création attend maintenant avec un ardent désir. La création soupire et attend avec un ardent désir. La saison dans laquelle nous entrons, c'est la saison de la révélation des fils de Dieu. Cela veut dire que le monde ne cherchera plus le Dieu aux cieux. On verra Dieu en toi. On ne cherchera plus dans la Bible. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus la Bible de nos jours. Ils n'ont pas le temps de le faire. Mais les gens verront la vie de Dieu en toi. Tu seras une preuve réelle de la vie de Dieu. Je suis un prophète de Dieu, je t'annonce des choses vraies. Nous ne sommes pas la statique que Nebuchadnezzar a vu. La tête en or, le cou en argent, les poitrines en fer, en argile. Nous ne sommes pas ces mélanges, ça c'est le système du monde. Nous sommes un corps. Si la tête est en or, tout le corps doit être en or. Si Jésus est glorifié, nous devons être glorifiés avec lui. Parce que nous sommes membres de son corps. Lui, c'est la tête. La tête ne peut pas être en or et puis le reste du corps en argent ou en fer. Non, c'est de la même matière. Même si tu vois des poussières, tu dis, oh, côté zongenga, côté zongenga. Ils ont la poussière à Pamba. Oh, ce que je suis poussière, kobangate longola. Yango nazo sala, nazo longola, okongenga. Je le déclare au nom de Jésus. Le Congo attend la révélation des fils de Dieu. Dieu nous fera des dieux pour cette nation, il nous donnera des Aarons. Dieu te fait ce matin, Dieu pour ta famille, il te donnera des Aarons. Kobanga yangote, Ndima, amen trois fois. Avant que je ne termine, je vais continuer le mardi. J'ai donné cet exemple, ça m'a beaucoup édifié lorsque j'ai lu cette histoire. Mettez-vous, s'il vous plaît, je vais conclure. Écoutez-moi, il y a un homme qui s'appelle Mallory. Mélard plutôt. Cet homme a organisé une expédition. Il a mené une équipe des alpinistes, vous connaissez ceux qui grimpent, escaladent des montagnes, pour aller sur le sommet du mont Everest, plus de 2000 mètres d'altitude. Il a organisé sa première expédition. Ils sont allés, ils se sont bâtis, ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont pas pu. Ils ont échoué, ils sont rentrés. Ils se sont très bien préparés pour la deuxième fois. Ils sont partis avec une équipe plus expérimentée, des matériels adéquats. Ils ont essayé un peu plus encore. Ils ont échoué. Ils sont rentrés. Et pour la troisième fois, il a dit cette fois-ci, nous n'échouerons plus. Ils ont pris du temps. Ils ont contacté des usines pour leur fabriquer des chaussures appropriées, des sacs au dos, des chaînes, tout ce qu'ils portent là approprié. Ils se sont entraînés. Il a pris la meilleure équipe du monde. Mallory et son équipe sont répartis sur le mont Everest. Ils ont escaladé la montagne, ils sont partis, ils ont dépassé le premier niveau qu'ils avaient atteint la première fois. Le deuxième niveau, ils ont dépassé. En s'approchant presque du sommet, je pense qu'il restait quelque chose comme 50, 60 mètres pour arriver sous 2000. Et là, un incident est arrivé. Les cordes se sont cassées. Ils ont été culbutés à des hauteurs impossibles. Il y a eu Mallory lui-même est mort. Et plusieurs délégations sont mortes. Mais vous connaissez la loi des survivants. Il faut toujours qu'il y ait des survivants pour expliquer aux autres comment c'est arrivé. Il y a eu quelques survivants, pas beaucoup, sous une équipe de plusieurs personnes, vingtaine je crois, il y a eu 3 ou 4 survivants. Et lorsqu'ils sont retournés à Londres, on a organisé un banquet royal pour les rendre honneur, pour leur courage et les encourager, les consoler de la mort de leurs coéquipiers. Ça, c'est la bonne culture. Si c'était chez nous, on allait le critiquer dans tous les journaux. Ils ont prétendu, ils ont crié, voilà ce qui était arrivé, l'aventure. La vie avance parce que les gens ont le goût de l'aventure. Et la foi est une aventure. Des gens statiques qui ne bougent pas, qui ont peur d'échouer, ne font pas des innovations et ne grandissent pas. La société avance lorsque les gens prennent des risques. S'ils échouent, c'est pas grave, mais ils auront laissé aux autres des éléments pour continuer plus tard. Le succès d'aujourd'hui sont les échecs d'hier. Lorsqu'un enfant échoue, ne le tape pas, tu l'encourages parce qu'il a osé faire quelque chose. Alléluia. Et je veux que mon peuple ait cette culture. Nous ne devons pas forcément la culture de critiquer, de critiquer. Quand des gens ont osé, il faut les encourager. On leur a donné une grande réception, un banquet. Les gens ont parlé, des notoriétés ont parlé pour les encourager. D'autres ont pleuré sur Melroy et toute son équipe. Et maintenant, on a donné le micro au porte-parole des survivants. Un survivant qui devait parler au nom de tous. Il a pris le micro. Et lorsqu'il a pris le micro, la salle était tendue. Il y avait de l'émotion dans la salle. Parce que lui, dit-moi, a vécu. Il a vu ses frères mourir, ses coéquipiers. Les gens se retenaient leur souffle, leurs larmes. Qu'est-ce qu'il va dire? Les gens étaient dans l'émotion. Et lorsqu'il entre devant la tribune, il se tourne parce que derrière, il y avait une grande image du mont Everest, de cette grande montagne. Il se tourne, il donne le dos au public, il part à la montagne. Il dit, mont Everest, tu nous as vaincus 1 fois, 2 fois et 3 fois. Tu as tué les meilleurs de nous et nos amis. Mais sache qu'un jour, nous te vaincrons. Pourquoi nous te vaincrons? Parce que depuis que Dieu t'a créé, tu ne grandiras plus jamais. Tu resteras au même niveau. Mais nous, chaque jour qui passe, nous grandissons en intelligence. Nous grandissons en sagesse. Les innovations grandissent. La technologie grandit. La science grandit. Les stratégies grandissent. Et un jour, nous arriverons à ton sommet. Nous te vaincrons un jour. La salle applaudit, acclamait. C'était en 1900, je crois, dans les années 20. De 1920 et quelques. Mais aujourd'hui, je vous parle de milliers de personnes sont arrivés au sommet de l'Everest. Pas seulement des professionnels, même des amateurs. Des amateurs qui, juste pour se faire un plaisir, sont arrivés. Cet homme avait raison de prophétiser sur la montagne. Qu'est-ce que je dis ce matin? Écoutez la bonne nouvelle. La maladie ne grandira pas. Et les maladies resteront maladies. Le chômage restera chômage. Le célibat restera célibat. La pauvreté restera pauvreté. Tout ce qui te dérange là ne grandira pas. Mais toi, chaque jour, tu as la bénédiction. Tu grandis. Tu grandis. Écoutez-moi, ça c'est plus intéressant. Les démons ne grandiront jamais ni en nombre ni en puissance. Que personne ne vous dise que les démons deviendront plus nombreux. Le même nombre qui a été chassé au ciel, c'est le même nombre qui existe. La même puissance qu'ils ont quitté le ciel, c'est la même puissance. Écoutez la bonne nouvelle. Le diable ne grandira plus. Ni en puissance, ni en autorité. Tout ce qu'il a, c'est le même niveau avec lequel on l'a chassé au ciel. Mais nous, entre-temps, chaque jour, la bénédiction arrive. Tu grandis. Dis-toi, voisin, j'ai grandi. Dis-toi, voisin, j'ai grandi. Dis-lui, j'ai grandi en autorité. Dis-lui, j'ai grandi en connaissance. Dis-lui, j'ai grandi en foi. Et ce qui est montagne aujourd'hui, demain, tu arriveras au sommet de cette montagne. Tu le vaincras, je déclare. Cette situation compliquée, tu le vaincras. Ce célibat, tu l'écraseras. Ce chômage, tu l'écraseras. Cette pauvreté, tu l'écraseras. Dis ton voisin, nous sommes achevés. Dis, Dieu est en train d'ajouter. Dis, nous montons. La montagne d'hier, cette semaine, tu le vaincras.